Voilà, merci à tout le monde d'être présent aujourd'hui chez Filigrane. Alors pour ceux qui ne sont pas situés à l'espace bar, qui entendent uniquement la voix, sachez que nous sommes situés à l'espace bar pour la présentation d'un livre. Des hommes et des femmes, des Belges, ont commencé à sauver la planète, paru aux éditions Ethiopia. Il y a quelques jours, quelques semaines de ça, nous avions eu le plaisir de se voir Amin Maalouf concernant un livre, Le dérèglement du monde, paru chez Grasset. Un brillant essai dans lequel Amin Maalouf nous expliquait qu'aujourd'hui, dans le chaos dans lequel on vit, il ne fallait pas retrouver des repères, mais créer des nouveaux repères. Et finalement, ce livre, aujourd'hui, eh bien, je trouve que c'est une bonne réponse à Amin Maalouf, puisque les hommes et les femmes dont il est question ont créé des repères, des nouveaux repères. Et c'est pour ça que je suis très content de recevoir les deux auteurs, à savoir Christophe Doulkeridis et Christos et Caroline Chapeau. Merci à tous les deux d'être présents. Alors je dirais, ça fait du bien que vous soyez là, car aujourd'hui on parle beaucoup de crise, on parle beaucoup de choses qui vont pas bien, et quand on lit le portrait de vos hommes et de ces femmes, on se dit qu'il y a des hommes et des femmes qui vont bien, qui fait des bonnes choses. Alors ma première question, est-ce que la véritable crise justement n'est-elle pas dans notre incapacité à penser, à créer finalement et à positiver ?
Comme introduction, c'est déjà un peu dur. Hein. Bon, merci pour le clin d'œil avec Amin Maalouf, mais c'est, je ne sais pas si, enfin bon, c'est très sympa d'entendre ça. C'est vrai que le propre d'une crise, c'est que d'un côté, on a l'impression qu'on est face à une impasse, et forcément, ça suscite la peur, plutôt la peur de ne pas savoir comment s'y reprendre, pas savoir comment redémarrer. Et ce livre qui n'a pas vraiment été rédigé au départ pour venir comme une réponse aux multiples crises qu'on est en train de connaître. Il a été construit, il a été entamé avant, mais c'est vrai que il montre un peu, simplement par le fait qu'on a été chercher des personnalités qui, dans de nombreux domaines, ont déjà entamé des modes de fonctionnement, des réponses qui sortent de l'ordinaire, qui sans doute permettraient d'une certaine manière de répondre à ce sentiment d'impasse. Et ça a vraiment été l'objectif du livre, c'est de donner un peu d'espoir et de se dire que les réponses, quelles soient, même si elles ont l'air très complexes, et elles le sont souvent, eh bien, certains n'ont pas attendu qu'on ait répondu totalement à toutes ces questions-là avant de commencer à mettre en pratique, concrètement, dans leur coin. Et ces personnes-là, elles ont fait ce travail-là, non pas en Argentine ou aux États-Unis ou en Chine, elles l'ont fait tout près de chez nous. Et l'objectif était donc bien d'essayer de se dire, ben voilà, on n'est pas tout seul, certains ont déjà commencé le travail, il faut les accompagner. Et on a voulu un peu les mettre à l'honneur, en espérant aussi que le fait de lire leur portrait donne envie à d'autres de pouvoir aller dans ce sens-là.
Alors c'est vrai, ce sont des hommes et des femmes qui ont tracé à contre-courant, en refusant toute fatalité, souvent loin des flashs médiatiques. Alors vous venez de le dire, ce sont des hommes et des femmes de chez nous. Alors Caroline Chapeau, vous avez travaillé pour le Routard, vous avez parcouru le monde, certains pays. Est-ce que la démarche justement était la même avec ces hommes et ces femmes que vous avez rencontrés ici en Belgique? Parce que chaque fois vous nous proposez finalement des véritables histoires de vie, des portraits, le côté humain, le côté humaniste est assez important. Est-ce que c'est votre démarche, vous, quand vous explorez le monde ou tout simplement ici en Belgique?
Eh bien, le guide du Routard, c'est pas tout à fait le même principe en fait. Mais ce qui était intéressant ici, effectivement, c'était de montrer concrètement des histoires de vie, montrer finalement aussi qu'est-ce qui avait poussé ces personnes-là à entreprendre des démarches innovantes. Et je pense que c'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas un bouquin qui parle de manière scientifique ou de manière. Je pense qu'il est très didactique en fait. Et voilà, j'ai l'impression qu'effectivement il y a un côté humain. Tout le monde peut s'y retrouver parce que dans ces hommes et dans ces femmes, il y a des personnes connues, il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout. Et c'est finalement ça qu'on a cherché aussi, c'est de montrer que on pouvait s'investir à chacun à son échelle dans n'importe quel domaine. Et voilà, effectivement, on a essayé de raconter ça d'une manière humaine et faire que les gens puissent y reconnaître. Ouais.
Il y a peut-être un point commun avec le Routard. C'est dans le Routard, il y a plusieurs classifications de chambres d'hôtel ou de restaurants qu'on a envie d'avoir. Et c'est vrai que peut-être dans l'action ici, on n'a pas spécialement choisi des personnalités qui étaient super connues ou dont le rayon d'action était extrêmement grand. On a aussi choisi des personnes qui travaillent de façon très très concrète dans un domaine limité, mais qui est limité au départ, mais si tout le monde travaillait aussi de manière aussi limitée, mais en même temps avec la même manière, mais peut-être que tout irait un tout petit peu mieux.
Une autre différence avec le routard, j'imagine que celui-là ne sera pas remis à jour chaque année, sinon vous allez avoir énormément de travail, à moins qu'effectivement il y a de nombreuses femmes et d'hommes qui auraient pu figurer dans vos portraits. Donc il y a des plus méritants, il y a peut-être des gens plus connus aussi, mais vous vouliez des véritables personnalités, mais personnalités pas dans le sens médiatique, mais des gens qui ont des parcours de vie, qui ont des accidents de vie, et par exemple, je dirais, il y en a même deux, le hasard, c'est certainement pas le critère qui a été, il y en a deux même qui ont déchiré leur diplôme, donc vous vouliez vraiment des gens dont c'est l'enthousiasme, qui osent tout, qui avancent, et finalement j'imagine que dès que vous les avez rencontrés, c'était des gens qui en imposaient par leurs idées, par leurs valeurs dès le départ.
Mais pas tous, mais une partie d'entre eux, et c'est vrai que quand on a fait un peu tous les parcours, on a été étonné de retrouver des phrases identiques dans la bouche de personnes qui ont des parcours très différents. Et donc cette phrase de personnes qui étaient diplômées ingénieurs et qui se sont senties obligées de nous dire ben, « nous, la première chose qu'on a faite, c'était de déchirer notre diplôme », c'est bizarre, mais c'est revenu souvent. C'est comme si ces personnes voulaient vraiment insister sur le fait que ce qu'elles avaient appris, il fallait le réapprendre ou qu'il fallait recommencer un peu à zéro. Mais j'imagine que ce qu'elles ont reçu, en même temps, n'a pas servi à rien. Mais voilà, cette démarche de rupture existe. Mais dans les portraits, il y a eu des personnalités comme ça, des personnalités très fortes, impressionnantes. Quand on les rencontre, on a vraiment... Voilà, tout de suite, on est sous le charme, il y a du charisme. Et en même temps, il y a des personnes beaucoup plus effacées, plus modestes, mais qui contribuent aussi à faire un travail qui est tout à fait remarquable. On a fait une petite classification dans l'introduction, et c'était aussi ça qui était important. Tout à l'heure, vous disiez... Tout le monde n'est pas dedans, évidemment. Donc, c'est pas le who's who du développement durable ou de ceux qui ont sauvé la planète en Belgique. Il y a plein de personnalités extrêmement intéressantes qui n'y sont pas parce que nous avons voulu aussi faire un équilibre entre les différentes sortes de personnalités qui s'y retrouvent. Par exemple, Ricardo Petrella, qui est quelqu'un qui a travaillé sur l'eau, qui a été un des fondateurs du Club de Rome, qui vraiment, dans le domaine écologique, est une très grosse personnalité, s'y retrouve pas, et aurait pu sans aucun problème y être. Mais à partir du moment où il y avait déjà Alain Hubert, Jean-Pascal Vianney-Purzel, qui sont de ces personnalités très charismatiques, qui ont vraiment pas peur de remuer, de soulever des montagnes, on s'est dit, il faut rééquilibrer avec d'autres profils qui sont sans doute un peu plus effacés, mais qui font un travail qui est parfois tout aussi considérable.
Et puis, il y a des profils étonnants, un premier point de vue, quand on n'a pas encore lu le portrait. Par exemple, quand vous mettez, par exemple, dans le domaine de la mode, on peut se dire, tiens, quelqu'un ici de la mode, dans un livre, par rapport à sauver la planète, est-ce que c'est pas justement faire l'apologie de la consommation, pas la consommation? Et puis là, on apprend plein de choses des plus intéressantes à partir de ce portrait.
On apprend, par exemple, c'est vrai que, bon, la mode, c'est comme si, on s'est dit, on ne fait pas de tabou. Et l'objectif, c'était pas de partir d'une position dogmatique. On voulait vraiment montrer des personnalités qui sont dans tous les domaines. Et donc, ici, c'est la mode, c'est la construction, c'est l'énergie, c'est l'alimentation, l'agriculture. Donc, on a la banque, la finance. Donc, on a essayé de brasser un peu tous les domaines. Et sur la mode, ça fait partie tout à fait de notre vie. Et si on n'essaie pas de comprendre quelles sont les contraintes auxquelles sont livrées justement les personnes qui travaillent dans l'habillement, c'est très difficile de changer les choses. Et là, on a trouvé quelqu'un, Marie Cabanac, qui justement est passé par toutes ces étapes, qui a été passionné par la couture, qui a voulu se lancer là-dedans, et à côté de toutes les épreuves qui sont déjà pas évidentes pour se lancer dans ce métier-là, elle s'est imposée toute une série d'autres contraintes. Pas travailler avec n'importe quel produit, pas travailler dans n'importe quelles conditions sociales. Et c'est là que, petit à petit, cette fille vraiment a essayé de soulever et de passer au-delà de tous les obstacles qu'elle a pu rencontrer pour essayer de trouver des solutions. Et ce parcours-là, il continue sans cesse parce que ça change tout le temps. Et le fait qu'elle l'ait fait peut-être donnera envie que d'autres se lancent aussi dans ces dynamiques-là et rendra les choses plus faciles. Puis encore un mot pour la mode, c'est quand on parle de réutilisation de matière, de tissu, c'est aussi une manière d'aller un peu à contre-courant d'une logique productiviste. Et donc même pour les décroissants, par exemple, qui pourraient se dire, bon, mais ça, il faut pas faire l'apologie de la mode, ben, là aussi, il y a quelque chose à créer. On n'est pas nulle part, mais il y a encore beaucoup de choses à pouvoir développer dans cette voie-là.
Alors c'est ça qui est intéressant avec ces différents portraits qui soulèvent différentes thématiques, c'est que ça soulève également des débats des plus intéressants. Par exemple, avec le professeur De Pen, qui se dit mais finalement vous faites des portraits, vous nous mettez nous en avant, vous personnalisez souvent des combats qui ont été des histoires collectives, et ça aussi c'est intéressant puisque comme vous l'avez dit, c'est souvent des gens qui se mettent pas en avant, qui n'ont pas spécialement envie d'être mis en avant, alors que leur travail, leurs actions en valent vraiment la peine. Alors est-ce que c'était facile de les rencontrer? Est-ce que c'était facile qu'ils vous parlent d'eux-mêmes, de leur parcours de vie, qu'ils se mettent un peu à nu et qu'ils acceptent finalement cette présentation?
Je dois dire qu'on a toujours été super bien accueillis en général. Généralement, c'est des personnes qui sont passionnées, qui aiment parler d'elles. Enfin, pas d'elles, mais en tout cas de ce qu'elles font. Et c'était super riche de passer 2 heures, 3 heures et souvent plusieurs entretiens avec ces personnes-là. Et de partager avec elles un petit bout de vie, en fait. Généralement, elles nous accueillaient très très bien. Oui.
Mais il y a aussi des personnalités qui nous ont appelés pour être dedans. Quand ils ont su qu'on le faisait, et elles ne s'y retrouvent pas toutes d'ailleurs. Et puis il y en a d'autres qui se sont dit, mais pourquoi est-ce que vous venez me voir? Donc ça existait aussi, moi, vous savez, j'ai pas fait grand-chose et tout. Et alors que quand on avait le compte-rendu de leur travail, c'était vraiment phénoménal. C'est vrai qu'on vit dans une époque où on a l'impression que c'est l'individu qui peut tout changer, et certains dont l'ex qui est... Enfin, l'ex... l'ex est son nom de famille, pardon? Jean-Michel, voilà, je ne retrouvais plus son prénom, qui est un enseignant et qui se dit, mais moi, ce que j'ai fait, c'est une goutte d'eau, quoi. Donc, et si je l'ai fait, c'est parce que j'ai réussi à convaincre tous les autres de le faire. Alors, il y a des personnalités qui se mettent plus en avant. Et elles le font aussi, et si elles se retrouvent là-dedans, c'est parce qu'on a estimé qu'elles le faisaient pour faire avancer la cause. Quelqu'un comme Alain Huber, il a besoin qu'on parle de lui. Si on ne parle pas de lui, ben, il est moins efficace dans son action. Et donc, je trouve ça noble, finalement, de pouvoir le faire et d'utiliser son image pour pouvoir y arriver. Mais il y a d'autres profils, comme cette dame qui travaille sur la mode, mais pas au niveau de... au niveau de des tissus, au niveau de la fabrication, mais au niveau de l'image de la mode et des marques, et le poids des marques, et puis tout ce qu'il y a là derrière, c'est-à-dire le fait qu'on travaille avec des enfants dans des pays du Sud, dans des conditions sociales tout à fait détestables. Et donc là, c'est Carole Crabbé, qui est coordinatrice de la campagne Vêtements Propres, et elle, ça c'est terrible, parce que quand on la voit, justement, c'est pas une charismatique. C'est une dame, je veux dire, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais on pourrait passer à côté sans... c'est pas quelqu'un qui se met forcément en avant. Mais quand on entend son histoire, elle a réussi à entrer en contact avec les plus grosses boîtes de production, Nike, Adidas et tout le reste, à entrer dans un processus de négociation avec elle, en jouant sur leur image de marque. Et elle fait exactement le contraire d'Alain Huber pour le même objectif. Elle se met jamais en avant parce qu'elle se dit que pour que ça marche, il faut que les sociétés elles-mêmes puissent profiter de cet effort-là. Et donc, elle les pousse à faire un effort, à travailler dans des conditions sociales meilleures, mais elle leur laisse le bénéfice de la publicité qui en ressort. Et ça, c'est une autre stratégie, mais qui est tout aussi efficace que celle d'Alain Huber ou de Jean-Pascal Van Ypersel. Faut pas les opposer, on a besoin des deux.
Alors, ils partagent tous, évidemment, un grand enthousiasme, puisqu'ils croient, ils avancent, ils ne se posent pas la question du pourquoi, mais plutôt la question du comment. Ils n'attendent pas d'avoir les réponses pour avancer, et ça, c'est vrai que c'est plus intéressant. On pourrait tous les comparer, finalement, à des athlètes, des sauteurs à la perche qui l'ont fait sur le dos, parce que l'image qui est racontée, justement, dans le livre, explique bien, finalement, symbolise bien leur démarche.
Oui, dans les profils dont j'ai essayé de faire une petite classification des profils, il y en a un qui me plaît particulièrement bien. Je les appelle les Fosbury. C'est cet athlète anglais. Bon, on l'a un peu oublié, nous, parce que... Enfin, je crois que c'est aux Jeux Olympiques de 1968. Donc, ce gars est le premier type à avoir sauté en hauteur à l'envers. Et donc, il faut aussi imaginer que pendant des siècles, on a fait le saut en hauteur d'une certaine façon, c'est-à-dire en sautant, en courant, et puis en sautant en avant. Et ce type... J'imagine un peu ce qu'il a dû entendre de la part de ses entraîneurs, de la part de son entourage, en lui disant « mais tu vas arrêter de faire le con, sauter à l'envers, c'est pas comme ça qu'on fait, on sait très très bien que c'est en avant qu'on le fait, on le fait depuis des siècles, arrête tes bêtises et suis plutôt nos conseils ». Et le type s'entête, il le fait contre l'avis de tout le monde, il saute à l'envers et il bat tous les records. Ça, c'est quand même une image terrible, et symboliquement, je trouve que, justement, on parlait de Christ tout à l'heure, quand... on est dans une situation bloquée, c'est important justement de sortir du cadre et d'essayer de faire autrement. Et ce sont des personnalités un peu originales qui osent, qui ne s'enferment pas peut-être dans le cadre, qui parfois nous permettent de sauter un certain nombre d'obstacles. Donc là, c'est l'encouragement à être chacun dans son domaine une espèce de Fosbury.
Et c'est là où on rejoint finalement, je trouve, Amin Maalouf qui disait justement qu'il fallait revoir maintenant les choses aussi de façon beaucoup plus globale et plus de façon limitée. Christos, est-ce qu'un gourmand, c'est rassurant quand vous rencontrez quelqu'un qui est gourmand ?
Oui, je fais ça pour le livre de, pour le portrait de Philippe Renard. Philippe Renard, c'est ce type qui est un restaurateur, gourmand effectivement, qui n'a pas été spécialement élevé dans le bio ou dans cette sensibilisation-là, et qui, puis, dans un parcours de vie, avec quelques accidents, il a d'abord été à la tête d'un restaurant étoilé en Belgique, et puis d'une grosse brasserie en France. Et puis il se retrouve à la tête de la cuisine collective de la société Etias à Liège, où il doit organiser des repas pour 300-400 personnes dans cette société. Et il a une seule contrainte, c'est un prix de revient qui est de 3,5 € pour chaque repas, avec le dessert, avec une entrée, avec un plat, et la boisson. Et puis il se dit, bon moi, pour des raisons un peu personnelles, donc c'est pas un dogmatique, il s'est dit, mais il aime bien manger, mais j'ai envie de réussir à faire en sorte que je ne leur offre plus n'importe quoi dans leur assiette. Et tout en respectant les 3,5 € par repas, il arrive à transformer l'ensemble de la cantine et en faire en sorte que près de 85% maintenant de ce qui est consommé dans ces repas est bio ou très très proche du bio. Ça, c'est remarquable. Et ce que j'aime bien dans sa démarche, c'est que justement, elle n'est pas spécialement dogmatique au départ. C'est pas quelqu'un qui a seulement envie de sauver la planète, si vous voulez. Il a d'abord envie de bien manger et de faire bien manger et de partager ce désir et ce souhait de qualité avec les gens autour du avec qui il travaille. Et c'est ça qui est intéressant. Donc c'est ce parcours-là, et c'est vrai que quand on le voit, il faut le rencontrer. Je crois qu'il a des livres de recettes ici d'ailleurs. C'est un type très 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 gai. On a envie de le suivre, on a envie de faire comme lui. Et ça, c'est une des personnalités attachantes de ce livre, c'est évident.
Il y a ces livres à la renaissance du livre sur les recettes wallonnes. Il me semble que le micro est en train de mourir. Alors on va prendre celui-là. Donc je disais qu'il y avait ces livres à la renaissance du livre sur la nourriture wallonne. Et puisqu'on évoque les livres, justement, il faut se dire aussi qu'au départ de ce livre, il y a un autre livre qui vous a influencé, qui vous a donné cette envie, un livre qui était paru en France chez La Thèse, il y a maintenant, je dirais, presque plus de 10 ans. C'était 80 hommes pour changer la planète.
Pour changer le monde, oui. Oui. Ben en fait, donc l'idée effectivement vient de ce bouquin 80 hommes pour changer le monde, qui a été écrit par deux économistes français qui, sortant de leurs études, se sont dit on va faire un tour du monde et on va rencontrer les pionniers dans le développement durable un peu partout. Ils ont repris énormément de portraits dans des tas de domaines différents, l'agriculture, la santé, l'éducation aussi exactement, la microfinance. Etc., etc. Et leur démarche était intéressante parce que justement, ils racontaient l'histoire d'hommes et de femmes qui avaient osé sortir du cadre, qui aujourd'hui étaient suivis généralement par tous. Des exemples de réussite aussi. C'était important de montrer que il y avait une rentabilité aussi dans les projets. Donc il y avait vraiment toutes les trois dimensions du développement durable qui étaient présentes, le social, l'écologie et l'économie. Et Christos donc a décidé de finalement suivre cette idée-là et montrer qu'ici aussi en Belgique, il y avait des personnes qui s'investissaient et que ça fonctionnait effectivement.
Oui, à partir du moment où on trouve un agriculteur japonais, donc là il a pris un portrait par pays, il y en a évidemment beaucoup plus dans ces pays. Donc moi je me suis dit, c'est pas possible qu'il n'y en ait pas en Belgique, donc il faut tout de suite aller les mettre en avant pour justement susciter cet enthousiasme-là. Et je crois que c'est vraiment la démarche de portrait. C'est une histoire qui est racontée. Et à travers ces portraits, d'abord, on apprend beaucoup, je l'espère. C'est-à-dire qu'on raconte aussi les différents processus, différents termes qui sont parfois techniques, qu'on entend dans les médias, mais qui ne sont pas toujours expliqués. Donc il y a aussi un petit lexique qu'on a fait à la fin du livre pour savoir ce que ça veut dire REACH, pile à combustible, OGM, panneaux solaires, Kyoto... Pour prendre des mots, les normes EMAS, etc., etc., pour pouvoir aussi se familiariser avec un certain nombre de concepts.
D'autant plus que tous les secteurs y sont réunis, hein, surtout le secteur de la construction et des transports, puisque ce sont finalement des secteurs qui sont la principale source de pollution en Belgique aujourd'hui. Est-ce que c'était facile ou difficile de mettre un point final au livre? Parce que j'imagine, chaque fois que vous avez rencontré quelqu'un, il vous a sans doute dit, mais vous donnez envie de rencontrer d'autres, comme les poupées russes. Et bon, il y avait le livre chez Lattès, maintenant ce livre chez vous. J'imagine bien que ça a été parfois difficile de se dire, bon, maintenant on arrête.
C'est vrai que l'accouchement à la fin, là, a été très très pénible. Ça a pris du temps, mais en même temps, c'était impossible de mettre tout le monde et ce n'était pas l'objectif. Vraiment, encore une fois, l'idée est d'avoir à la fois un patchwork des thématiques qui sont abordées, mais aussi un patchwork des portraits et des styles de personnalité. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est de se dire que ce n'est pas une seule catégorie de personnes qui change le monde ou qui change les choses. Il y a plusieurs profils et parfois des profils inattendus, des gens qu'on pense effacés. Je disais, là-dedans, il y a les vétilleux. C'est des gens qui sont obsédés par les détails. Généralement, c'est pas des personnes très charismatiques, c'est plutôt des personnes renfermées qui vivent dans leur monde. Mais c'est aussi des personnes qui, parce qu'elles sont un peu là, têtues, à essayer de trouver une petite solution à un problème qui, pour nous, au départ, n'a pas beaucoup d'importance. C'est peut-être aussi elles, ces personnes-là, qui arrivent à faire avancer les choses et à débloquer. Donc voilà, c'était ce patchwork-là, il était aussi important. Et donc, désolé pour toutes celles et ceux qui mériteraient sans aucun problème d'y figurer. Mais de ne pas y être. Mais voilà, il a fallu faire des choix.
Et puis,
il n'y a pas de femmes et d'hommes politiques non plus, et pas non plus de personnes qui travaillent dans des administrations. Donc, alors qu'on sait que ce sont aussi ces personnes-là qui font changer les choses. Mais là, c'était un parti pris au départ de ne pas rentrer dans cette voie-là.
Puis c'est à chacun d'entre nous d'aller également vers ces gens-là, nous-mêmes dans le quotidien, parce qu'ils sont partout. Il y en a certainement quelques-uns qui sont dans la salle aujourd'hui. Je crois que j'ai vu les infirmières de rue qui font un boulot exceptionnel.
Ah, mais Marie Cabana qui est là aussi, je ne l'avais pas
Cabana,
vu.
Marie Cabana, donc, qui sont voilà. Là aussi aujourd'hui. Je crois que ça peut être intéressant que vous les rencontriez de façon informelle, ainsi que nos auteurs, puisqu'on va poursuivre cette rencontre de façon plus conviviale et comme ça avec les gens présents aujourd'hui. Moi, j'irais, on va peut-être laisser les mots de la fin à un auteur, puisqu'on est quand même toujours dans un temple du livre, et finalement ça représente bien vos portraits. C'est Mark Twain qui disait, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ça résume bien un peu la philosophie de vos hommes et de vos femmes.
Oui, c'est vrai, c'est certaines personnes, on le sent bien, ne se posent pas la question de savoir si c'est possible. Elles avancent et elles font soit en fonction de leur éthique, soit en fonction de leur trip, soit en fonction d'une obsession qui vient d'un élément d'enfance. Pour prendre un portrait très différent, celui qui crée les voitures, la Yves Toussaint, il veut créer la voiture propre. Au départ, c'est un gamin, comme beaucoup de gamins, qui est passionné par les voitures, par les petites automobiles. Et donc, c'est surtout ça qui le motive. Et en même temps, il tient compte de ce qui se passe dans le monde aussi autour de lui. Et donc, il se dit, moi, j'ai envie d'inventer la voiture propre maintenant. Et il se lance là-dedans. Et il avance, et il est wallon, il vient de, il travaille surtout du côté Liège maintenant. Et je suis convaincu qu'à un moment, ils vont réussir à faire quelque chose d'intéressant là-dedans. Et donc, quelle que soit la motivation, généralement, il faut pas s'enfermer dans est-ce que c'est possible ou non. Ça, c'est tout à fait évident. Si on veut avancer, et en particulier dans des situations de crise, c'est pas la première question à se poser.
Voilà, on peut tous y contribuer. À notre façon. Merci de votre contribution à travers ce livre, de votre présence aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous avez écoutés. Et donc, je vous le rappelle, il reste parmi nous pour vous en parler, pour vous le dédicacer. Merci à vous tous.